7h39 de retour dans votre set avec Éric Laverdure en espérant que ça va toujours bien. On remercie Vincent Dumas encore pour son temps tout à l'heure et maintenant c'est le temps d'accueillir en studio mon ancien professeur, Hugo Loiseau, professeur titulaire à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Bon matin, M. Loiseau.
Bonjour, bonjour.
Alors, aujourd'hui, M. Loiseau, on voulait parler de la COP26, en fait, et aussi un peu de l'Amazonie, parce que, justement, c'est un peu le poumon hein, de notre planète, tout ça. Justement, la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, la COP26, a récemment pris fin, mettant en lumière plusieurs enjeux liés à la protection de l'environnement. Parmi ceux-ci, c'est surtout la question de la déforestation, notamment de l'Amazonie, qui est particulièrement préoccupante. Ainsi, à la suite de la COP26, quelle attitude, selon vous, semble avoir les États par rapport à la déforestation amazonienne? Semble-t-il avoir une certaine prise de conscience de la part des autorités locales?
Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a une prise de conscience assez importante de la part des États, notamment les États occidentaux, qui trouvent que l'Amazonie est une région qui, comme vous l'avez dit, est le poumon de la Terre, mais qui est en sursis. C'est-à-dire que de plus en plus, et notamment avec l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, l'Amazonie a été déforestée de façon accentuée. Et la déforestation, en fait, pour faire une petite parenthèse, c'est plus que on ouvre des terres pour que la production bovine, puisque les bovins puissent paître, mais c'est surtout un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on déforeste, plus il y a des feux de forêt, plus il y a de l'érosion, plus les habitats naturels sont détruits, plus la biodiversité est détruite, ce qui augmente encore plus, justement, la déforestation. Donc, plus on déforeste, plus ça s'accélère. Donc ici, devant ce constat-là, les États occidentaux, et ça, c'est pas que à Glasgow, hein, c'est depuis une bonne trentaine d'années, disent, nous devons internationaliser l'Amazonie pour lui offrir une protection internationale. Donc, faire une sorte de sanctuaire. Évidemment, le Brésil est contre, parce que c'est son territoire, il assure une souveraineté sur son territoire. Donc ici, c'est la logique des relations internationales qui s'applique. Un État est souverain sur son territoire. L'enjeu ici, c'est que les États occidentaux trouvent que le Brésil n'exerce pas un contrôle environnemental selon la pensée actuelle pour justement empêcher la déforestation. Et c'est plutôt le contraire. Les politiques brésiliennes visent justement à déforester au maximum pour propulser le développement économique dans la région.
Oui, exactement, de propulser l'économie du Brésil aussi.
Oui.
Mais juste là, rapidement, je sors de mes questions, mais il y a aussi d'autres pays dont fait partie un peu l'Amazonie. Là. Il me semble des...
Oui.
Je ne les ai pas en tête, malheureusement.
C'est ça.
Les pays qui sont en haut, là. Si vous êtes en studio avec moi, vous me voyez faire
oui, un oui, oui. On voit la carte de l'Amérique du Sud. Là, mentalement, bien entendu, à la radio, c'est difficile de l'illustrer. Mais c'est-à-dire que 80% du bassin amazonien est au Brésil.
Okay.
Le reste, c'est Venezuela, Pérou, Équateur, un peu Guyana, Guyane, etc. Mais c'est surtout au Brésil. Par exemple, au Venezuela, il y a des sanctuaires, des zones protégées. En Colombie aussi, au pays que j'ai oublié de mentionner, dans les pays limitrophes de l'Amazonie. Au Brésil, il n'y a pas cela. Au Brésil, c'est vraiment le développement économique, la destruction des habitats, et aussi, avec justement, avec l'arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro, c'est surtout des politiques qui visent à pousser les populations vers, populations autochtones de la zone, vers les franges. Et c'est non dit, mais c'est une politique un peu eugéniste. C'est-à-dire, on élimine les habitats, ces gens-là quittent leur territoire, quittent leurs ressources, pour qu'on puisse dire, ah voilà, c'est libre, c'est libéré, on peut donc exploiter et déforester.
Puis même en fait, je pense que la façon aussi qu'on déforeste, justement, si on coupe les arbres et ensuite on brûle le terrain pour justement envoyer l'industrie bovine là, ces feux-là ne sont pas contrôlés et peuvent finir par dépasser et aller brûler le restant de la forêt.
Exactement, c'est exactement ce que je dis.
Et bon, exactement, alors on a la pourquoi, en fait, oui, la conservation de la forêt est importante parce que, on le dit, c'est le poumon et tout ça de la planète, mais est-ce qu'il y a d'autres aussi utilités, en fait, à la forêt de l'Amazonie? Il y a sûrement une protection aussi des espèces animales qu'on n'a pas ailleurs non plus.
Oui, c'est ça. C'est une réserve de la biodiversité mondiale. C'est-à-dire qu'il y a une richesse en termes de biodiversité et cette richesse intéresse beaucoup l'industrie pharmaceutique parce qu'on découvre de nouvelles plantes, de nouvelles molécules, de nouvelles propriétés. Et ça se retrouve et ce n'est pas encore découvert. On estime que c'est à découvrir. Donc, si on déforeste, ces découvertes à découvrir, c'est un peu un pléonasme, mais ces découvertes à découvrir ne pourront plus être découvertes. Mm-hmm. Et donc là, il y a des enjeux économiques extrêmement puissants qui sont à l'œuvre. Je vous donne un exemple. Dans sa politique de greenwashing, le Brésil, ou excusez l'expression anglaise, c'est de bien paraître vert, si je peux le traduire
okay.
en français, eh bien, le vice-président du Brésil a dit, nous voulons que la communauté internationale nous paye entre 30 et 40 milliards de dollars pour ne pas exploiter l'Amazonie. Il y a un coût économique, mais aussi ils nous payent parce que nous avons restreint nos volontés de développement économique dans la région depuis les 10 dernières années. Donc là, il y a un enjeu économique
c'est
important.
C'est intéressant quand on y pense, parce que la façon que désolé tout le monde, on est une discussion de deux personnes en politique qui commencent à jaser, mais... OK, on veut obliger, par exemple, l'Amazonie à protéger, le Brésil à protéger l'Amazonie, mais est-ce que d'autres pays pourraient pas commencer à dire la même chose des États occidentaux et dire, là, vous arrêtez pas de scraper l'eau. Moi, mon pays veut de l'eau propre. Est-ce que on pourrait, eux, leur forcer à arrêter de jeter des cochonneries dans l'eau?
C'est déjà le cas. Ouais. Vous avez raison. Par exemple, l'Équateur s'est entendu avec la communauté internationale il y a quelques années pour dire, j'ai des réserves pétrolifères dans mon sous-sol, je ne les exploite pas. En contrepartie, voici la facture. Et la communauté internationale a accepté de payer l'Équateur, le gouvernement équatorien. Ici, c'est un peu la même logique. Le seul problème ici, c'est que comment le gouvernement brésilien a-t-il fait pour arriver à un chiffre de 30 à 40 milliards? Ouais. Vous voyez, la fourchette de 10 milliards, moi, elle m'inquiète beaucoup. Mm-hmm. D'autre part, comment peut-on prétendre monétiser la nature. C'est-à-dire que la nature, c'est un bien collectif. Et là, la logique des marchés de carbone, la logique, comme on l'a vu à Glasgow, on fait des échanges et on monétise la nature dans une optique de rentabilité de la nature. La nature ne fonctionne pas comme ça.
Non, exactement.
C'est biosystémique. Tout le monde en profite. Et c'est pour ça que la communauté internationale désire une internationalisation de la zone, parce que c'est le poumon de la planète Terre. L'autre enjeu, c'est un enjeu qui est de nature plutôt environnementale, où on s'est rendu compte que avec la déforestation des dernières années, le bilan carbone de l'Amazonie est devenu négatif, c'est-à-dire cette forêt absorbe moins qu'elle ne produit de carbone à cause des feux de forêt, à cause de la déforestation. Et là, il y a un enjeu. Donc, c'est toute la question des enjeux économiques, des enjeux écologiques et de l'enjeu politique qui est central. Les leviers du pouvoir se retrouvent à Brasilia, au Brésil.
Et justement, à un an des élections au Brésil, qui sont en 2022, comment la population, là, on le sait, oui, les peuples autochtones, automatiquement, je sais qu'ils sont contre cette déforestation-là, parce que c'est leur milieu de vie, c'est leur milieu de leur milieu d'existence, point final. Mais la population dans les villes, par exemple à Rio de Janeiro, dans ces grandes villes-là, comment qu'on voit ça, cette déforestation-là? Est-ce qu'on voit plus ça d'un point de vue économique, ou on voit ça quand même, il y a un certain amour pour du peuple brésilien envers son Amazonie?
Je dirais que c'est pas une préoccupation majeure.
Okay.
Dans le sens où...
C'est sûr qu'avec la COVID en ce moment...
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas une préoccupation majeure pour le citoyen brésilien moyen. C'est-à-dire que le gouvernement Bolsonaro, et là, il y a un rapport sénatorial qui est sorti récemment, 500 pages l'accusant ni plus ni moins de crimes contre l'humanité. D'accord?
Okay.
Donc, votre propre président est accusé de crimes contre l'humanité. Il est aussi accusé de crimes contre l'humanité à cause de la déforestation en Amazonie, mais ça, c'est un autre enjeu. Le citoyen brésilien moyen a plutôt devant lui la situation économique qui est désastreuse au Brésil, la situation socio-sanitaire qui est désastreuse au Brésil. Et donc, la question de l'environnement en Amazonie, c'est assez tertiaire. Tertiaire dans le quotidien de ces populations-là. Cependant, ça pourrait revenir de l'avant-plan dans la campagne électorale, parce que le gouvernement Bolsonaro pourrait dire, on défend les intérêts du Brésil. Une politique nationaliste très, très forte en disant, on interdit donc à la communauté internationale et surtout les États occidentaux, je fais bien la distinction entre les États occidentaux et le reste du monde, Russie, Chine ou Turquie, qui eux, ça ne les dérange pas, sont dans une politique non interventionniste. Et donc, le gouvernement Bolsonaro, notamment pour sa réélection, pourrait mettre cela de l'avant en disant, voyez-vous, nous on défend les intérêts internationaux du Brésil. On défend les intérêts de l'Amazonie. Bien sûr, ce sont des intérêts propres à ce gouvernement d'extrême droite. Ce ne sont pas nécessairement les intérêts du Brésil au complet. Néanmoins, ça donne l'impression que le gouvernement Bolsonaro, malgré tous les méfaits qu'il a pu commettre durant sa présence, défend les intérêts des Brésiliens et des Brésiliennes.
Et en terminant, selon vous, quelle action politique à court terme pourrait être mise en place pour préserver les forêts à ce que, bon, là, l'ONU... Je sais pas. L'intervention armée non plus.
C'est-à-dire que je pense que le multilatéralisme et la diplomatie douce pourraient plus fonctionner. On pourrait attendre aussi l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président, d'une nouvelle présidente.
Oui,
probablement que M. Lula da Silva va se présenter.
Exactement.
Il s'est déclaré candidat. Et que le président Bolsonaro va lui aussi se représenter. Il faut aussi trouver des solutions alternatives. C'est-à-dire que la déforestation pour faire peindre des beaux vins, eh bien, c'est parce qu'il y a une consommation de viande. Et toutes les études le disent, il faut diminuer la consommation de viande rouge, notamment, parce que c'est ce qui détruit le plus de la planète. Ça consomme beaucoup de grains, beaucoup d'herbes. On a besoin d'ailleurs
de
terre.
Terrain,
c'est ça. Donc, c'est une culture extensive. Et donc, si on diminue notre consommation de viande rouge, eh bien, la nature va mieux s'en porter.
Ah, bon, ben, c'est...
Concrètement, c'est ce que les citoyens peuvent faire dans leur vie de tous les jours.
C'est des pistes de solutions, effectivement. Puis, exactement, on suit les élections au Brésil en 2022 qui vont être assez intéressantes avec le retour de Lula. Et j'ai hâte de voir s'il remporte le pouvoir, quelle sorte de ménage qu'il va faire dans l'État.
Ça va me faire plaisir de venir faire une chronique pour vous à ce sujet-là, si vous voulez.
Bon, ben, génial, je prends l'invitation en note. Merci beaucoup, professeur Hugo Loiseau, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, à l'École de politique appliquée. Et de notre côté, eh bien...